Comment en est-on arrivé d'ailleurs à ces numéros de kiosque 3615, bien sûr, mais aussi les paliers moins chers comme 3613, 3614 et les plus chers, 3616, 3617.
Oui, alors ces numéros courts, les pavis, les points d'accès vidéo-texte, furent la véritable signature de l'ère Minitel. Mais effectivement, au début, les pavis n'avaient pas de numéros courts. Une des grandes difficultés sera de simplifier le numéro d'appel du kiosque très grand public, où était l'immense majorité des services. Son numéro était le 16 615 91 77 depuis Paris et le 16 36 15 91 77 depuis la province. Il fallait donc étendre la zone téléphonique parisienne pour que plus de gens s'y intéressent. Mais certains partis politiques s'y opposaient. Par exemple, le Front National était contre le principe d'étendre la région téléphonique parisienne, sauf à y inclure Orléans pour une partie des royalistes et la Corse pour les bonapartistes, ce qui valait des tensions en interne. Même au palais de l'Élysée, il y eut des bagarres homériques entre ceux qui voulaient y inclure Latché, où le président y avait ses habitudes, mais pas tout le département des Landes pour éviter qu'Henri Emmanueli ne soit trop favorisé. Et un autre camp qui voulait inclure une partie de la Corrèze, si possible exclusivement la Roche de Solutré, pour éviter que Chirac ne tire la couverture à soi. Finalement, Mitterrand a été très agacé par ces débats. Il a donc missionné Louis Mexando, son ministre des Télécommunications et de la Programmation Antiope, pour pousser le plan de numérotation nationale à 8 chiffres. Et ainsi donc, le 25 octobre 1985, les Français pouvaient appeler un autre département sans passer forcément par le 16. Sauf pour la province, pour Paris, qui gardait encore son fameux 16-1.
Ah oui, je me souviens. C'était Léon Zitron qui en faisait la pub à la télé.
Oui, avec une gamine sur un immense téléphone à touche, accessoirement parfaitement fonctionnel, si on arrivait à décrocher le combiné qui faisait quand même ses 350 kilos de bakélite.
Bah, Léon, c'était un costaud.
Et c'est ainsi qu'avec le système de numérotation à 8 chiffres, le 3615 devient un numéro à 4 chiffres avec une logique parfaitement implacable. Mais bon, quand des énarques s'y mettent, il faut s'attendre à absolument tout, et avant tout à l'incompréhensible. Mais il restait encore la séparation entre l'Île-de-France et les bouseux de province. Il fallait préparer psychologiquement le Parisien moyen qu'il allait avoir le même type de numéro que le provincial. Et surtout, le temps de faire d'immenses travaux pour qu'en 1995, le plan de numérotation à 10 chiffres fisse disparaître le numéro court 16. Bon, tout le monde a oublié pourquoi on compose toujours un zéro, puisque la privatisation des télécoms ne s'est pas faite exactement comme l'avait prévu le ministère.
Et pour l'international, le Minitel a-t-il réduit le déficit du commerce extérieur ?
Ah, le développement international. Passer par le 19 ou recevoir de très lucratifs appels pour le 3615 ULA depuis l'Union soviétique, ce qui aurait permis de générer de précieux dossiers de compromat. L'une des motivations premières quant à la diffusion internationale du Minitel était de démontrer le génie français, le « soft power » comme on dit maintenant au Quai d'Orsay. Une des raisons plus secrètes, que je peux maintenant révéler, c'est que le Minitel était un outil de communication parfaitement maîtrisé par les agents de la DGSE.
Les fameux meilleurs services secrets du monde, toujours très à la pointe de la technologie.
Oui, sauf que la possession d'un Minitel en dehors de la France n'est pas facilement justifiable devant un douanier très soupçonneux, surtout quand on prétend être en vacances. Ainsi, les faux époux Turange, ceux qui ont plastiqué le Rainbow Warrior en 1985, ont eu du mal à justifier devant les enquêteurs néo-zélandais la présence dans leur bagage d'un Minitel 1 de la radiotechnique. 6 kilos d'excédent de bagages très fragiles, pas vraiment facile à caser dans une valise, car risquant d'être cassé au moindre choc avec les bouteilles de plongée. Mais quand on essaie de vendre notre technologie à l'export, le consortium mené par France Télécom a eu de très nombreux écueils avec ses homologues étrangers. En Europe, c'était plus ou moins facile puisque les ministères des télécoms nationaux se voyaient régulièrement à Strasbourg ou à Bruxelles. D'ailleurs, eux aussi tentaient de nous convaincre d'abandonner nos Minitel pour leurs propres solutions. Les Britanniques avaient lancé en 1979 un service équivalent, le Prestel, qui utilisait un réseau national en protocole X25. Mais le terminal n'était pas gratuit, les possibilités graphiques basées sur leur SIFAX Teletex étaient très limitées et Margaret Thatcher ne donnait pas dans la subvention publique. Le nombre total d'utilisateurs n'a pas dépassé 200 000 usagers, export compris, exportés d'ailleurs surtout en Italie. Les Allemands du Deutsche Bundespost avaient leur Bildschirmtext. Vous dites comment là, je m'y fais jamais là, l'idiome teuton.
Bildschirmtext.
Ah, merci. BTX en résumé. Oui, c'est plus simple avec des lettres civilisées. Le BTX avait une élégante police sérifée et d'autres aménagements principalement linguistiques. Mais il ne décolla pas vraiment car le terminal était vendu assez cher par la poste allemande. D'ailleurs, il était aussi programmable. C'est une monumentale erreur. Le BTX a involontairement permis de faire connaître le fameux Chaos Computer Club. Vo Holland, l'un des hackers du CCC, avait trouvé une faille de sécurité très gênante. Cette fonction de programmation lui a permis de détourner 134 694 Deutsche Mark d'une banque à cause d'une fonction du terminal un peu trop libre. Somme qu'ils ont intégralement rendu le lendemain, mais je reviendrai plus tard sur les piratages. On a tenté de vendre le Minitel au Japon, mais hélas, la résolution semi-graphique de 80 par 75 pixels n'était pas suffisante pour afficher les complexes caractères japonais. Donc une série de Minitel 1B eurent leur processeur graphique modifié pour afficher ces caractères. C'est après cette deuxième présentation que les ingénieurs de France Télécom découvrirent fortuitement que les Japonais avaient déjà un appareil similaire, le Captain, qui tournait depuis 1979 avec des capacités graphiques largement supérieures.
Ah, manqué. C'est bête. Ils auraient pu se renseigner avant.
Oh, de toute façon, leur capitaine se faisait littéralement manger par les micro-ordinateurs bien plus puissants comme le Famicom de Nintendo, puis les MSX. Du coup, le ministère du Commerce avait repris le comité export en main et leur a prié de se concentrer sur les pays sans industrie informatique nationale et au produit national brut conséquent. Et je veux bien entendu parler des pays de la péninsule arabique. Vous avez du pétrole ? On a des idées. Sauf que, en préparant le dossier, les ingénieurs graphistes avaient toutes les peines pour afficher rapidement du texte de droite à gauche sur Minitel 1, sinon en faisant deux coups de retour arrière à chaque caractère. Or, si le Minitel s'écrit dans le mauvais sens, donc dans le sens occidental, de gauche à droite, l'appareil aurait été qualifié d'impur, de halouf, par les autorités religieuses. Et encore, il n'y a pas que les difficultés techniques, il y a aussi les mœurs locales. Lors de la deuxième campagne de test, le fils d'un des dignitaires d'une puissance arabique fut surpris en train de tenter de convaincre une animatrice d'un service de Minitel Rose français à le rejoindre dans son palais des mille et une nuits. L'incident découvert, le Minitel fut enterré dans le désert avec le fils indélicat, le commercial de France Télécom et l'animatrice du 3615 Scheherazade qui a cru devenir princesse.
Ah oui, oula, c'est triste.
Oui, surtout pour le Minitel, doré à l'or fin avec sa diode d'allumage en rubis sertie par les plus grands spécialistes de la place Vendôme. L'affaire fut étouffée, pas que diplomatiquement. Mais l'aventure Minitel a eu heureusement quelques petits succès internationaux. Il fut exporté en Angleterre pour quelques banques avec un clavier alphabétique. Il fut aussi tenté aux États-Unis, en Floride. Enfin, succès. Seuls 80 000 terminaux furent exportés en tout et pour tout, et comme ils étaient payants au prix fort dans ces pays-là, ils furent vite abandonnés. Le prix d'un Commodore 64 avec modem était largement moins cher. Si nous prenons l'ensemble des projets de terminaux télématiques à travers le monde qui furent lancés entre les années 1970 et l'an 2000, le seul pays où cette technologie a marché était en France, ce qui explique peut-être, par notre institution, l'École nationale d'administration et l'esprit grivois des Français. En 1988, le théoricien en organisation et management Bruno Lussato a eu cette réplique qui résume absolument tout. On nous dit que le monde entier nous envie le Minitel. Je ne sais pas s'il nous l'envie, messieurs, mais je peux en tout cas vous dire une chose avec certitude, c'est qu'il ne nous l'achète pas.
Effectivement, une phrase parfaite.